This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Allemagne, à Jaffa et à Bruxelles. Ce sera ailleurs dans le monde avec aujourd'hui Olivier Poujade. Un jour dans le monde numérique, Colasibo sur le harcèlement sexuel et la politique dans la Silicon Valley. 18h55, l'édito d'Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde qui a regardé et adoré le discours de Donald Trump hier devant le Congrès. Tout de suite, la France, l'Algérie, la décolonisation.
Nicolas Demorand. Un jour dans le monde.
Et pour un lecteur français, le livre de notre invité ce soir est très étonnant. Il s'intitule « Mal, décolonisation », sous-titre « L'homme arabe » entre guillemets, et la France de l'indépendance algérienne à la révolution iranienne. C'est chez Payot. Étonnant parce qu'il croise l'histoire de la sexualité et celle du colonialisme pour montrer sur quelle base physique, sexuelle, érotique s'est créée à la fois une figure, un fantasme et une mythologie politique typiquement française. Merci à Todd Shepard d'être là au micro de...
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, au micro d'Inter. Vous êtes historien, vous enseignez à l'université Johns Hopkins à Baltimore. Alors on va remonter au début, dire un mot des quelques premières pages de votre livre. En 1985, vous êtes tout jeune, vous venez passer une année en France dans le cadre d'un échange scolaire, vous êtes installé dans le Nord, à Douai, et vous découvrez votre sujet d'étude au cours d'une conversation avec le père de la famille d'accueil. Qu'est-ce qui s'est dit dans cette conversation et de quoi avez-vous pris conscience à ce moment-là?
Bah, c'était vraiment le premier jour de mon arrivée et on discutait. Moi, je disais quelque chose, je ne sais pas pourquoi, du colonialisme. Je disais que c'était mauvais, que l'Empire français, etc. Et moi, j'étais quelqu'un d'une famille de droite, fan de Reagan, donc c'était sûrement pas très radical. Et ça me paraissait de bon sens. Et le père m'a tout de suite repris. Et c'était un père, il faut dire, jeune, il avait l'air branché, nettement plus branché que mes parents. Il disait non, c'est faux. Et en plus, ça veut dire qu'on des gens prétendent que quelque chose comme dire les Arabes sont des voleurs, c'est du racisme, c'est pas du racisme, c'est une vérité. Donc ça m'a pas convaincu, mais ça m'a interpellé. Donc je me demandais comment est-ce que, voilà, j'avais pas pensé comme ça avant. Donc des gens pensent comme ça. Et puis après, pendant quelques mois, c'était supposé être une année, ma première toute entière, à Douai.
Ça a duré que quelques mois. Hein.
Finalement, oui.
Dehors.
Oui, en plein hiver en plus à
voilà.
Douai. Il y a beaucoup de choses de bien à Douai. Mais là, on s'entendait pas vraiment. Et pour moi, ça devenait évident que il comprenait pas que je pouvais faire des comparaisons entre les deux pays. Moi, j'arrivais des États-Unis, je connaissais vraiment pas du tout la France. Et donc, je pensais que les échanges de ah oui, comme chez nous c'est comme ça, comme vous chez vous c'est comme ça, c'était intéressant et c'était très vite. Ouais, et surtout à la fin, j'ai compris que c'était pour eux une façon de comparer et nécessairement c'était donc moi je devrais dire la France est mauvaise, les États-Unis sont bien, et c'était intéressant qu'ils m'ont accueilli. Après, j'ai aussi compris que c'est ce qu'ils attendaient de moi, c'était un garçon américain à la façon des grands films américains comme Rambo 2 de Sylvester Stallone ou Top Gun avec Tom Cruise, une espèce de masculinité incarnée, virile, que selon eux manquait un peu la France.
Et Jean-Marie Le Pen est déjà là dans la conversation.
Tout à fait. Donc très vite, ils avaient le statut de Jeanne d'Arc et de Napoléon. Ils se disaient un peu gaullistes, mais ils adoraient Jean-Marie Le Pen. Et moi aussi, comme le colonialisme, j'avais l'idée en tête, en tant qu'Américain de 16 ans, qu'il était mauvais, qu'il était raciste, que c'était pas bien. Mais eux, ils défendaient vraiment, en disant que c'était quelqu'un qui pourrait sauver la France et les mettre, les Français, voilà, dans cette direction plus solide, moins lâche, moins molle.
Alors, ce qui est drôle, c'est que vous arrivez, vous êtes un supporter de Ronald Reagan, vous repartez, vous êtes de gauche. Hein.
Voilà.
Ça, c'est l'effet de la France en trois mois.
Vive la France.
En trois mois. Alléluia. Alors, venons-en donc à ce livre dont je vais redonner le titre, « Mal, décolonisation », M-A, accent circonflexe, L-E, sous-titre « L'homme arabe, entre guillemets, et la France, de l'indépendance algérienne à la révolution iranienne ». Pourquoi ce sujet, pourquoi cette manière d'aborder cette période-là, qui est une période très dense, très dure, très violente de l'histoire de France?
Moi, j'avais fait, en tant qu'étudiant à la fac, des études très américaines sur la théorie du genre, soi-disant féministe, queer, etc. Mais Pour mon doctorat, j'avais vraiment commencé de revenir sur ces questions franco-algériennes. J'ai fait un livre 1962, Comment l'indépendance algérienne a transformé la France, aussi chez Payot, qui était vraiment sur la fin de la guerre et comment les institutions de le gouvernement français, la législative, exécutive, judiciaire, s'entrejambaient avec une redéfinition de la nation, qu'on excluait les musulmans et les arabes, les algériens de la nation française, alors qu'ils avaient, j'ai découvert, c'est une fée, la citoyenneté française, qui est 10% de l'Assemblée nationale était algérien. Donc des choses qui s'intéressent, qui ne sont pas nécessairement au centre de ce qu'on sait de la guerre d'Algérie. Mais pendant toutes mes recherches, je tombais constamment sur des données étonnantes sur des questions sexuelles, sur des questions genrées, sur les questions de la virilité, des accusations entre gauche et droite que vous êtes homosexuel, c'est la raison qu'il y a la torture, vous êtes homosexuel, c'est la raison que vous soutenez la FLN, vous n'êtes pas un vrai homme. Notamment qu'on ciblait à la fin de la guerre les pieds noirs en tant que hyperviril, c'est-à-dire un stéréotype assez classique qu'on dise orientaliste, qu'en France et en Occident, on disait des Arabes, des musulmans, hyperviril ou soit éphèbes. Donc les seuls libéraux chez les pieds noirs, c'était les éphèbes. Disons, disait avec Pierre Nora, par exemple, les homosexuels, ou la plupart, hyperviril, c'est ce qui expliquait à la fois leur soutien de l'OS et la torture, peut-être. Donc, c'était une
donc
des
vous
exemples.
Avez trouvé le sexe, la sexualité, le genre, toutes ces questions-là étaient sous vos yeux.
Tout à fait. Et donc, personne n'avait traité ça. Et puis après, j'ai continué. J'avais fait un autre travail parce que je me suis dit aussi, sur 68, c'était 2008. Et donc, il fallait faire quelque chose sur 1968. Je me dis, oh, je vais faire quelque chose sur l'extrême droite. Personne ne travaille sur l'extrême droite. Donc, il y a plein de choses. Et là, je trouve que ce n'est pas simplement l'Algérie dont parle l'extrême droite en 68, en mai, mais énormément de la sexualité. Donc, il y a des attaques en disant, il y a une invasion arabe, une invasion algérienne de la France, et qui l'arme nécessaire pour eux, c'est le sexe, c'est la violence, le viol, c'est les attaques sexuelles. Ils ont cette sexualité débridée qui attaque la France. Ok, c'est intéressant. Et puis après, j'avais fait aussi un travail sur le mouvement homosexuel. Et je ne sais pas si je peux te dire ça, le premier titre, le premier manifeste de ce mouvement, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, en 1971. Ils reprennent le manifeste dit des 343 salopes, une mois après, et ils disent « Nous ne sommes plus que 343 salopes, nous nous sommes fait enculer par les Arabes. » Et donc, là, je découvre que le mouvement homosexuel aussi est miné, ou en fait traversé par ces discussions de rapports entre Français et nécessairement presque toujours Algériens, mais ils disent Arabes. Et qu'ils étaient, pour eux, c'était une façon de dire qu'est-ce qui est politique que les fils de la révolution algérienne peuvent apporter, aider la révolution en France, faire transformer quelque chose de plus radical, faire apporter quelque chose de plus radical en France, et que c'est les rapports sexuels qu'ils insistaient existaient entre ce qu'ils appelaient les homos, c'est-à-dire français blancs, et arabes, pas nécessairement homos, mais avec la question de la misère sexuelle en arrière-plan. Et aussi, ils disaient l'histoire, c'est-à-dire c'est que à cause du colonialisme et c'est que à cause du racisme en France que ces rapports sont possibles comme ils le sont aujourd'hui en France.
Donc, ce que vous montrez très bien dans ce livre, et on va repréciser les choses, même si vous en avez déjà dit quelques mots, c'est que ce stéréotype, cette mythologie, cette fiction, je ne sais pas comment l'appeler, traverse aussi bien la droite et l'extrême droite que la gauche et l'extrême gauche. Voilà. Alors, à droite et à l'extrême droite, quel portrait on a de l'homme arabe, entre guillemets, à cette époque-là? Est-ce que vous pouvez repréciser les traits, puis on verra ensuite pour la gauche et l'extrême gauche?
Tout à fait. Donc, tout de suite, à la fin de la guerre, à l'indépendance algérienne, l'extrême droite va fixer sur la figure du sodomite, du violeur, de l'arabe vorace. Et puis très vite, et ça c'est plutôt dans les écrits de quelques-uns qui vont devenir connus sous le nom de la nouvelle droite, Alain de Benoît, Mabir, Dominique Venner, qui s'est fait connu ça fait quelques années encore avec son suicide à l'hôtel de Notre-Dame, qui vont expliquer qu'il y a une invasion algérienne de la France. Et c'est fait explicitement sur les bases qu'il faut effacer l'histoire de la colonisation. Il faut replacer l'attention des Français sur leur victimisation actuelle par les nouveaux colonisateurs. On parle de 66, 67, 68.
Et pas de 2016, 2017.
Voilà. Hein. Donc l'invasion arabe de la France, l'invasion algérienne et les violeurs. Donc c'est constamment, on va mettre en avant la question du viol. c'est en 68 et après que ça va leur permettre de transformer le regard. Donc c'est la nouvelle droite, c'est ce qui va devenir la nouvelle droite. Ces gens-là vont dire, arrêtons de parler de ce qu'on appelle la nostalgérie, de l'Algérie perdue, parlons de l'invasion algérienne. Et c'est le mai 68 qui leur permet de convaincre d'autres à l'extrême droite de tourner le regard de De Gaulle, parce qu'ils fixaient leur regard sur De Gaulle et les gaullistes pour dire les Français sont lâches. La France est un pays femelle. Il n'y a pas d'autre explication de comment la France a perdu l'Algérie, parce que c'est abnormal que les Arabes ont gagné. Eux, ils ont des, c'est ce qu'ils appelaient, eux, une sexualité masculine animale. Pas maîtrisée. Mais comment les Français ont perdu? Mais 68 leur promet de regarder à l'extrême gauche.
Alors, qu'est-ce qui se passe précisément à l'extrême gauche? Pas exactement l'inverse, mais autre chose.
Très, très différente. C'est-à-dire l'extrême gauche aussi, un peu plus tard, après 68, va reprendre, et c'est un classique dans l'orientalisme, comme avec l'antisémitisme, il y a toujours le philosémitisme, il y a toujours l'admiration. Ah, les musulmans, ah, les arabes, sont, ils ont quelque chose de vrai, de réel. C'est ce qui différencie à ce moment le regard de l'extrême droite, qu'on pourrait appeler dans la même façon positif plutôt que négatif, c'est de dire qu'il y a une vision politique chez les arabes, la révolution arabe. Donc, le base de cette révolution arabe, c'est la révolution algérienne, qui a quand même vaincu la France, impérialiste, capitaliste, oppresseur. Et c'est donc un modèle pour l'extrême gauche qui va dire, pas seulement en général, qu'il faut regarder vers l'Algérie et vers les Algériens, les travailleurs immigrés massivement algériens et maghrébins en France, comme modèle révolutionnaire, comme partenaire pour faire la révolution, mais spécifiquement sur les questions de sexualité et de genre. Les féministes aussi, par exemple, vont regarder de très près le modèle algérien. On va reprendre pas seulement les you-you, qui résonne dans toutes les manifs féministes en France dans les années 70, mais les efforts que les Algériens avaient faits pour identifier à quel point les questions de genre sont politiques.
On est d'accord, Tom Shepard, que cette manière de faire...
Todd, excusez-moi.
De faire de l'histoire est très américaine, plus qu'anglo-saxonne, c'est très américain. Fait, oui. C'est pour ça que je disais que c'est assez étonnant pour un lecteur français qui, en revanche, dans la littérature que vous citez abondamment, un certain nombre d'auteurs, dans la littérature est peut-être plus... dans un territoire plus familier sur ces questions-là, non?
Si. Bah, y a tellement de romans, tellement de mémoires, tellement qui parlent que de ces questions sexuelles. En fait, j'arrivais pas à me défaire presque. Donc, j'ai commencé par regarder ce qui était nouveau pour moi vers la production culturelle. Donc, j'ai regardé beaucoup sur les journaux, la production militante, mais aussi beaucoup dans les films. Des films comme Diablo Monte, avec comme Le Dernier Tango à Paris, comme avec Dupont-la-Joie, mais aussi beaucoup dans les romans, les écrits, et on le voit partout. C'est ça qui m'a marqué, c'est ça qui m'a à la fin convaincu que c'était pas que l'extrême droite, que les homosexuels, que les féministes, que c'était un sujet sur la révolution sexuelle en France. Partout dans les grands débats sur la révolution sexuelle publique en France, les années 60 et surtout 70, on trouve l'homme arabe qui est là. Donc c'est très marquant et c'est sort partout. Et donc il faut essayer de l'interroger, de s'interroger. Donc finalement, j'ai pu faire ce qu'il me fallait moi, des archives, de la police, du gouvernement. Et là, par exemple, on trouvait que la police, moi j'ai trouvé que la police a fait, donc moi j'ai regardé à Marseille, à Lyon, à Paris, mais surtout Marseille-Paris, à quel point la police française faisait constamment des enquêtes pour dire, on nous dise que les crimes, et surtout les crimes sexuels, sont prépondérants, sont à domination maghrébine. Et constamment ils disent, non, c'est fausse. Et c'était une vraie question, c'est-à-dire, on a des études qui montrent très bien que dans les années 70, par exemple, on minimisait dans la presse, en général, la presse régionale, c'est l'étude dont je cite, l'implication des soi-disant immigrés dans la criminalité en général, sauf sur les questions sexuelles. Là, l'estimation maximale avec statistiques des prisons, de l'immigration tout courte, on pourrait dire 16-17% des crimes sexuels. Dans la presse, c'était 38% de tous les articles. Donc, une exagération incroyable. La police faisait constamment des enquêtes en disant, bah, ils sont tous jeunes et masculins, et la criminalité est jeune et masculine, donc c'est ça qui explique. Mais il n'y en a pas. Donc, les études, les recherches, les archives qui aussi montrent à quel point, en France, le gouvernement savait que c'était pas les étrangers, les travailleurs migrés. C'était des Algériens, des Maghrébins, on disait, mais pas vraiment les Marocains, pas vraiment les Tunisiens, les Algériens. Et le rapport à la guerre et l'humiliation de la France était ce qui sort constamment dans ces archives, mais aussi dans ces œuvres culturelles. Donc j'essaie de faire le va-et-vient entre un travail archival et aussi un travail qui prend au sérieux les produits culturels.
Et ce sera ma dernière question. Vous allez jusqu'à Édouard Louis.
Oui, voilà.
Très jeune auteur français. Expliquez-nous pourquoi. Publie aux éditions du Seuil.
À la fin, il fallait me rendre compte du fait que je m'inspire des travaux d'autres que d'autres. C'est pas simplement les historiens. Il y a d'autres qui essaient de penser. On a parlé des romans qui traitent ces questions. Mauvigné, d'autres qui m'ont beaucoup inspiré. Là, j'avais regardé vers des auteurs comme Michel Haneke avec Caché, Kamel Daoud avec Meurtre contre enquête et Edward Louis comme des modèles des gens qui prend et qui met au centre de leur travail cette intersection sexualisée et gendrée cette question de l'homme arabe et son rapport avec la France. Donc Edward Louis, c'est un peu, en regardant vers lui, j'ai dit, en lisant ce roman, qui était l'année dernière, c'est un risque ce qu'il fait, et je me reconnais dans ce risque. C'est-à-dire, c'est risqué de parler de ces choses-là, de mettre une violeur arabe, algérien, Reda, c'est ce qu'on dit dans le roman, au centre. Mais je dis, c'est symptomatique. Donc c'est ce qui est important dans la façon que Louis le traite, je pense, c'est qu'il prend ça au sérieux, il essaie d'analyser, de penser ça. Et il montre et suggère, et c'est ce que j'essaie de faire aussi, que ce n'est pas simplement les homosexuels, les féministes qui ont un problème avec l'homme arabe. C'est la France qui a, en continu et à répétition, retourné sur cette figure pour s'expliquer à elle-même, pour se définir et pour s'exciter. Donc c'est quelque chose qui sert à beaucoup de choses. Donc c'est ça qui m'intriguait beaucoup et je crois que lui, il évoque ça assez bien.
Merci Todd Shepard.
Ah non, c'est moi.
Merci beaucoup. Marle, décolonisation, sous-titre « L'homme arabe entre guillemets et la France de l'indépendance algérienne à la révolution iranienne ». Les dernières pages vont jusqu'à aujourd'hui. On aurait pu en parler encore très très longtemps. Il y a eu des polémiques terribles dans la campagne présidentielle ces derniers jours sur le fait de savoir si la colonisation était ou non un crime contre l'humanité. Ce sera pour une autre visite que vous nous rendrez, j'espère, voilà, à France Inter. Dans quelques instants, le journal de l'International. Merci encore. Kiwanuka sur Inter, 18h37.
Datiotas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Et le journal de l'international avec Olivier Poujade. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Nicolas.
On part en Allemagne pour commencer Olivier, où le sort d'un correspondant de presse basé en Turquie provoque un véritable tollé.
Oui, le cas de Deniz Yücel met notamment en lumière, Nicolas, les relations tendues entre Angela Merkel et le président turc Erdogan depuis lundi. Le correspondant en Turquie du quotidien allemand Die Welt se trouve derrière les barreaux. Il est accusé par le régime d'Ankara de propagande terroriste. Bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Les Allemands sont vent debout, Cyril. Depuis deux jours, Deniz Yücel est devenu le symbole des atteintes à la liberté d'expression.
Eh oui, on a entendu hier des concerts de klaxons dans plusieurs grandes villes. Il y a une manifestation devant l'ambassade de Turquie à Berlin. Un appel dans la presse signé par 300 personnalités. Ce sont quelques-unes des nombreuses initiatives en soutien à ce journaliste. Le hashtag FreeDeniz est partout depuis deux jours et son visage fait la une de la presse. Le journaliste germano-turc de 43 ans, correspondant du quotidien Die Welt en Turquie, est la dernière victime en date du régime Erdogan. Depuis le putsch manqué l'été dernier, Ankara est en guerre contre toutes les voix discordantes. 150 journalistes se trouvent derrière les barreaux. Et Deniz Yücel, d'abord placé en garde à vue mi-février, se trouve désormais en détention préventive pour propagande terroriste et incitation à la haine.
Alors Cyril, que lui reproche précisément la justice turque ?
Eh bien, d'avoir publié dans Die Welt des éléments jugés compromettants pour le régime et notamment le contenu des emails du gendre de Recep Tayyip Erdogan, des messages qui avaient d'abord été dévoilés, rendus publics par un groupe de pirates informatiques et qui montrent bien comment l'AKP, le parti du président turc, fait pression sur les médias pour imposer ses vues. L'affaire a fait beaucoup de bruit en Turquie. Elle a suffi à mettre Deniz Yücel dans le collimateur de la justice qu'il accuse de complicité avec les terroristes, accusations scandaleuse pour l'employeur du journaliste. La direction de Die Welt, propriété du groupe de presse Axel Springer, a immédiatement protesté auprès des autorités allemandes. Et hier, l'ambassadeur de Turquie à Berlin a été convoqué au ministère des Affaires étrangères.
Mais ce qu'il faut préciser, Cyril, c'est que cette nouvelle affaire intervient dans un contexte diplomatique particulièrement tendu entre Berlin et Ankara.
Oui, l'an passé, déjà, un humoriste allemand, Jan Böhmermann, avait provoqué la colère d'Erdogan avec un sketch insultant diffusé à la télévision. Le président turc a depuis engagé des poursuites et tenté de museler à distance ce célèbre animateur. Et depuis le coup d'État manqué, eh bien, les relations sont encore plus tendues avec Ankara, qui a empêché pendant plusieurs mois des députés allemands de se rendre en Turquie, où sont stationnés les soldats de la Bundeswehr engagés dans la coalition contre Daesh. Début février, Angela Merkel s'est rendue en Turquie. Elle avait à ce moment-là appelé Recep Tayyip Erdogan à respecter l'état de droit. Des propos qui sonnent étrangement creux. Quelques semaines plus tard, en Allemagne, l'opposition de gauche appelle la chancelière à durcir le ton, à montrer qu'elle n'est pas l'otage d'Ankara depuis qu'elle a signé un accord sur les réfugiés avec le régime turc. Plusieurs parlementaires veulent même interdire la venue d'Erdogan sur le sol allemand. Le président turc a prévu de venir faire campagne au mois de mars pour son référendum constitutionnel. L'enjeu n'est pas négligeable car, rappelons-le, plus de 3 millions de Turcs vivent en Allemagne.
En direct de Berlin, notre envoyé spécial Cyril Sauvageau.
Et direction maintenant Israël, Tel Aviv, plus précisément au sud de la ville, Olivier, Jaffa, dans le quartier de Ajami.
Quartier célèbre pour avoir donné son nom à un film récompensé à Cannes en 2009 et nominé aux Oscars l'année suivante. Ajami est un endroit populaire, jusqu'ici à majorité arabe, un lieu idéalement situé où les prix de l'immobilier flambent et cette tendance a plongé la famille Chaya dans une situation ubuesque, Nicolas. L'État d'Israël lui demande aujourd'hui de racheter la maison dont elle est déjà propriétaire. Bonsoir Marie Semelin.
Bonsoir Olivier.
Alors pour comprendre le problème de la famille Chaya, Marie, il faut d'abord faire un peu d'histoire, remonter juste avant la création de l'État d'Israël, avant 1947. À cette période, on est en Palestine mandataire. La maison appartient à Salim Chaya, au personnage de l'aristocratie chrétienne. Il l'a construite, cette maison, en 1920. Il y vit avec sa femme et leurs 7 enfants. L'année 1948 arrive, l'époque de la guerre d'indépendance pour les Israéliens, de la Nakba pour les Palestiniens, et les combats s'étendent jusqu'à Jaffa.
Oui, à ce moment-là, 3 des 7 enfants sont en vacances au Liban. Au même moment naît l'État d'Israël. Impossible pour eux de rentrer. C'est là que commence un cauchemar légal et immobilier pour la famille qui prend d'abord la forme de représentant de l'État. Il tape à la porte pour réclamer 40% de la maison. 40% ce que représentent les parts des 3 enfants sur 7 désormais absents. C'est Fadwa qui leur a ouvert, la plus âgée sur les 3 générations qui cohabitent sous le même toit.
Ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a ?
Je veux voir combien de mètres vous avez.
Là, ils m'ont dit, vous devez payer pour le prix des 3 chambres où vous dormez. Vous devez payer la part des frères qui sont partis en 48. Sinon, on reviendra et on divisera la maison. Mais où est-ce qu'ils peuvent diviser la maison ? Toute la maison est habitée. Mes enfants sont là. Moi, je suis là. Comment ils peuvent diviser ça ? C'est soit on paye, soit on nous met dehors.
Si l'État affirme posséder 40% de la maison, c'est à cause d'une loi, la loi des absents, c'est son nom. Votée en 1950, elle permet de déclarer propriété nationale les biens des Palestiniens qui sont partis à la création de l'État. À partir de là, le calcul est simple. Certains sont absents, alors leur part peut être réquisitionnée, même si des membres de la même famille sont toujours dans les murs.
L'État a donc fixé un prix pour cette part de la maison que les Chaya doivent racheter. 1 million d'euros. La maison est très grande et a pris visiblement beaucoup de valeur.
Oui, et la somme a été réduite à 500 000 euros par un juge clément, mais la famille n'a pas les moyens de payer. Entre-temps, le quartier a changé de statut. Il est passé du coupe-gorge, où personne ne veut habiter, au quartier en vogue, où se mélangent les habitants arabes, les juifs israéliens qui n'ont pas les moyens de se loger à Tel Aviv et les nouveaux propriétaires d'appartements de luxe avec vue sur la mer. Georges, l'un des petits-fils, est épuisé par une décennie de procès. Lui-même a 4 enfants qui habitent la maison. Il est persuadé qu'elle sera rachetée à prix d'or par un investisseur et regrettent que leur histoire ne soit pas entendue.
Nous, c'est notre maison. Elle a été bâtie par notre grand-père. C'était vraiment malchance. Ils sont partis, n'ont pas pu revenir en 48. Alors c'est fini. On n'a pas de valeur. Notre vie, notre famille, notre histoire n'a pas de valeur. Pourquoi ? Chacun dans la vie, chaque personne, chaque être humain, il a une valeur, il a une histoire, il a une adresse, il a une maison, quand il achète, quand il bâtit, quand il vit dans un endroit, ça veut dire quoi ? Il n'y a plus de valeur, il n'y a que du business, il n'y a que de l'argent à faire.
Une histoire à peine croyable, hein, Marie, mais absolument pas isolée. Hein. Beaucoup de ces habitants de Jaffa ont déjà dû ou vont devoir partir, chassés par soit les loyers inaccessibles ou parce que leur droit sur leur maison n'est pas reconnu. Une bataille économique qui cache également un combat idéologique que redoute la famille Chaya.
Oui, et depuis quelques années, arrivent de nouveaux habitants poussés par la frange très à droite des nationalistes religieux. Le but affiché, c'est que le quartier perde son caractère arabe. Un des lieux qui cristallise ces tensions, c'est une école religieuse un peu particulière, puisque son fondateur est un rabbin venu de Beth-El, une colonie de Cisjordanie. À son arrivée, habitants juifs et arabes du quartier ont manifesté, comme Sami Aboucheadeh, un ancien élu de la mairie.
Ici, on est dans un des endroits les plus tendus du quartier de Ajami. Récemment, des nouveaux colons sont venus s'installer dans Jaffa. Le rabbin Eliyahu Mali, un des colons de Beth-El, est venu ici pour y ouvrir une yeshiva. Il a choisi d'installer sa yeshiva dans un quartier qui a une population arabe à 90%. Quand ils sont arrivés dans notre quartier, ils nous ont dit que pour eux, la solution dans les villes mixtes, c'est la séparation. Imaginez quelqu'un qui arrive dans un quartier et qui vous dit que pour lui, la solution, c'est la séparation.
Et les responsables de l'école n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Ils ont évoqué un contexte délicat.
La flambée des prix de l'immobilier au service de la droite nationaliste religieuse israélienne. Reportage de notre correspondante Marie Semelin dans le quartier de Jaffa à Tel Aviv.
Et place maintenant à l'incontournable DER de Bruxelles, Olivier, comme chaque mercredi.
Avec ce soir une commission européenne sous influence, c'est en tout cas ce que dénonce le Parlement à Strasbourg qui s'est prononcé hier en faveur d'une directive destinée à protéger les salariés exposés à des agents cancérigènes sur leur lieu de travail. Bonsoir, Johanna Hochstein.
Bonsoir.
En direct de Bruxelles, vous nous parlez ce soir, Johanna, de silice cristalline alvéolaire, de poussière de bois, de gasoil, pas vraiment des matières qui font rêver. Il s'agit de substances chimiques hautement cancérigènes sur lesquelles l'Europe tente, tant bien que mal, de renforcer sa législation. Alors où en est-on, Johanna ?
Alors, la législation européenne actuelle, qui remonte à 2004, n'encadre pour le moment que 5 produits dangereux, pas un de plus, le benzène, le chlorure de vinyle, les poussières de bois, l'amiante et le plomb. Ces substances cancérigènes, on les retrouve dans le secteur du bâtiment, du bois, de la chimie notamment. L'an dernier, la Commission européenne propose de définir des valeurs limites d'exposition pour 50 autres substances. Ce texte était très attendu par les syndicalistes et pour cause. Chaque année, ce sont 100 000 Européens qui meurent des suites de cancers d'origine professionnelle.
Et donc la révision proposée par la Commission européenne répond-elle aux attentes des travailleurs ?
Alors non, et cela sans surprise, car à la dernière minute, la Commission européenne renonce à inclure sur sa liste les vapeurs de diesel, reconnues pourtant comme deuxième cause de cancer professionnel après l'amiante. Autre source de mécontentement, les limites fixées sont bien en deçà de celles souhaitées par les syndicalistes. Prenons par exemple le chrome 6, qui est dégagé en fait lors de la soudure ou lorsqu'on travaille le cuir. Les plafonds de tolérance proposés par la Commission européenne sont 25 fois supérieurs à ceux en vigueur en France. Les eurodéputés qui ont voté le texte hier dénoncent un manque cruel d'ambition et une forme de complicité de la Commission avec l'industrie.
La Commission est donc en train de céder une nouvelle fois aux sirènes du lobby de l'industrie.
Eh bien, c'est bien ce que tout porte à croire, selon plusieurs sources, et le journal Le Monde a repris l'information la semaine dernière. Des 22 experts du comité scientifique censés fixer ces valeurs, 15 entretiendraient des liens étroits avec le secteur industriel, avec le chimiste allemand BASF par exemple, ou encore avec la compagnie pétrolière néerlandaise Shell. Vous en conviendrez, il est donc difficile pour la Commission européenne d'être crédible lorsqu'elle plaide l'indépendance de ses experts scientifiques quand il s'agit de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
Johanna Hochstein en direct de Bruxelles.
Et on termine avec la convocation de François Fillon par les juges qui est officielle depuis ce matin. Énième rebondissement d'un feuilleton, Olivier, qui laisse nos voisins totalement incrédules.
Oui, depuis des semaines, la presse étrangère s'étonne que le candidat Les Républicains soit encore en course dans cette présidentielle, du Guardian au New York Times, en passant par les journaux suédois, bien sûr. La Suède, intransigeante sur l'exemplarité de ses hommes politiques, se moque du Penelope Gate par la voix du groupe Blonde and Blonde and Blonde, interprétation lyrique moyenâgeuse d'un morceau de Maître Gims.
Est-ce vous la tâche et par les montagnes?
Penelope Fillon, épouse exemplaire
du grand vainqueur de la droite primaire.
Oh les mains, dans le sac façon Cahusac. Oh les mains, peau de lapin. Pénélope en maillot de bain. Oh les mains, dans le sac façon Cahusac. Oh les mains, peau de lapin. Macron se frotte les mains.
Alors voilà, parodie diversement appréciée dans l'équipe d'Un jour dans le monde. Certains trouvent ça simplement rigolo, d'autres absolument pas. À vous de juger. Sachez enfin, Nicolas,
oui,
qu'Ilmari Kopinen et Emile Powell se sont affrontés aujourd'hui en finale du 60 mètres en salle. Petite précision, ils sont tous les deux nés en 1918. Et sont encore capables de piquer un très joli sprint. Un grand bravo en tout cas à ces deux nonagénaires. Je ne cautionne absolument pas, Nicolas, cette illustration sonore, œuvre de notre réalisateur Éric Lenné.
Merci mon cher Olivier Poujade, il est 18h50.
Un jour dans le monde... sur France Inter.
Un jour dans le monde numérique avec Colas Zibo ce soir. Pour commencer, deux visages méconnus de la Silicon Valley, l'un politique et l'autre sexiste.
Le premier visage, c'est celui de l'entreprise Uber. Ces dernières semaines, ce sont des affaires de management brutales et particulièrement misogynes qui ont secoué Uber jusqu'à provoquer lundi le licenciement de l'un de ses cadres. La polémique est arrivée par cette embarrassante histoire de sexisme. Sur son blog, Suzanne Fowler, une ancienne ingénieure de Uber, détaille son quotidien professionnel. où se mêlent propos scabreux et propositions de rapports sexuels de ses supérieurs dans l'indifférence totale de la direction des ressources humaines. Lamentable et surtout pas isolé dans la Silicon Valley, comme le souligne la journaliste Jessie Humpel au micro de NBC News.
Des femmes me racontent des histoires similaires tout le temps. Il règne un sentiment qui voudrait que les femmes doivent s'accommoder de ces brimades. Il y a un non-dit qui voudrait que ça soit ça, être une femme dans la Silicon Valley.
Et les chiffres sont édifiants. Un rapport indépendant publié l'année dernière estimait, tenez-vous bien, que 60% des femmes des entreprises de la Silicon Valley avaient subi ce type d'agression. Si le problème de sexisme n'est pas propre à Uber, en revanche sa proximité avec Trump, elle pose question. En janvier, Uber s'était signalé en brisant la grève des taxis new-yorkais qui protestaient en réponse aux premières mesures contre l'immigration de Trump. Eh bien, cette semaine, on a appris que son PDG Travis Kalanick siégeait au conseil économique de Trump. Colère immédiate de milliers d'utilisateurs qui ont été plus de 200 000 à supprimer l'application de taxi depuis l'arrivée de Trump. Allez, autre exemple, deuxième info, autre visage de cette Silicon Valley politique, avec cette fois Facebook. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a fait son « Moi président » avec une lettre aux allures de manifeste politique. Dans un texte très long, il détaille son projet pour le futur de Facebook. Et s'il fallait le résumer en une formule, voici sa devise.
Dans un monde qui change si vite, le plus grand risque serait de ne pas prendre de risques.
Et de fait, des risques, il en prend. Il propose ni plus ni moins de transformer son entreprise en une plateforme pour une démocratie globale et mondiale. Alors, comment cette plateforme politique fonctionnera-t-elle ? Eh bien, à partir d'élections qui auront lieu directement dans Facebook, plus besoin de passer par l'isoloir. En clair, la ville de Paris pourrait par exemple organiser des référendums locaux sur sa page Facebook. Quel rôle tiendrait Zuckerberg dans tout ça ? Eh bien, certains observateurs estiment qu'il ne serait pas contre être aux manettes de cette communauté globale. D'ailleurs, à une journaliste qui l'interrogeait sur le sujet, il répondait « Les meilleures communautés ont toujours des chefs ». C'est l'autre visage de cette Silicon Valley politique, celle d'un Zuckerberg président du monde, à l'opposé du repli sur soi proposé par Trump, comme l'analyse la journaliste Kara Swisher au micro de NPR.
Il s'est donné de la peine pour ne pas dire le mot Trump et de fait, il n'apparaît nulle part. Pourtant, dès les premières lignes de son manifeste, il explique qu'à la création de Facebook, les idées de partage et de globalisation n'étaient pas problématiques.
Allez, dernière info, la grande messe européenne du high-tech, le MWC, se tient en ce moment à Barcelone. On a beaucoup parlé du retour du Nokia 3310, ce portable mythique des années 2000, et de l'arrivée imminente de la 5G qui pourrait à terme remplacer la 4G. Mais hier, c'était Peugeot qui a fait parler de lui. Le constructeur automobile a présenté sa voiture autonome, ça y est, elle pilote sans chauffeur à l'aide de capteurs. Encore un peu d'attente, cependant, pour rouler les pieds en éventail, sa commercialisation n'est pas prévue avant 2020.
Colas Zibo sur France Inter, Herbie Coq tout de suite et Arnaud Le Parmentier juste après. Down the Birds d'Herbie Hancock. L'édito tout de suite.
Le 18-20. Nicolas Demorand. Un jour dans le
avec
monde.
Avec donc Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde. Bonsoir mon cher Arnaud.
Bonsoir Nicolas.
Vous avez adoré le premier discours de Donald Trump devant le Congrès.
Eh oui, en tout cas, je lis la déception sur votre visage. Vous attendiez des jambes nues sur un canapé dans le bureau ovale, des anathèmes contre la presse, des horreurs aux limites du racisme et des fake news. Bad to bad, comme dirait Donald Trump. Vous voilà bien désappointé, Nicolas. Donald Trump était cette nuit président des États-Unis. Pour la première fois, peut-être hier soir, le discours du 45e président américain prononçait son discours de l'état de l'Union devant les deux chambres du Congrès. Il avait l'air presque apaisé, pas un mot contre le Mexique, pas rien contre la presse, ni contre les pays musulmans, ces villes ou ces pays d'Europe défigurés, selon lui, par l'immigration. C'est le journal Le Monde qui le dit dans son éditorial ce soir. Vous voyez que mon avis est partagé. Le président a lu son discours sans s'en départir. Il s'est même inscrit dans l'histoire. Il a cité Abraham Lincoln, je cite, « L'abandon d'une politique protectrice par le gouvernement entraînera de la jalousie et de la ruine parmi le peuple. » Il a cité Dwight Eisenhower, président de l'après-guerre, qui finança les infrastructures de l'Amérique moderne. Surtout, il a invoqué les 250 ans de l'indépendance qui seront fêtés dans 9 ans. Pour cela, il a rappelé les grands pionniers du 19e siècle qui présentèrent leurs inventions pour les 100 ans de l'indépendance, Graham Bell et le téléphone, Thomas Edison et le télégraphe, Remington et la machine à écrire. Eh bien, d'ici 9 ans, Trump veut que l'Amérique soit great again.
Et il est pourtant resté flou, non, sur ses projets?
Mais c'est là votre contradiction, Nicolas. Votre réflexe de journaliste de gauche, naturellement, c'est d'attendre des horreurs pour mieux les dénoncer. Il n'y en a pas eu, réjouissez-vous. Donald Trump rentre un petit peu dans le rang. Alors soyez déçus, s'il poursuit ainsi, il restera président des États-Unis 4 ans et ne se parera pas empêché avant la fin de son mandat. Alors regardons le détail, il a rassuré sur l'OTAN, naguère jugé obsolète, citation, « Nous soutenons fortement l'OTAN, mais, a précisé Trump, nos partenaires doivent respecter leurs obligations financières. » Il a aussi tempéré ses propos sur l'immigration, vantant le Canada et l'Australie qui ont un système d'immigration fondé sur le mérite. Il a défendu l'armée, célébrant le soldat décédé dans l'opération spéciale au Yémen au début de son mandat, ce qui lui a valu une ovation debout et des pleurs. Il a repris en revanche ses attaques pour défendre ses électeurs, les rednecks, contre la guerre des gangs à Chicago, le fief d'Obama qui a fait 4000 victimes l'an dernier, l'éducation si coûteuse et qui est devenue, je cite, le combat pour les droits civiques des temps modernes. Conclusion, Trump a beau s'être entouré des gourous venus de Goldman Sachs, il n'a pas encore trahi ses électeurs blancs du Midwest.
Enfin, conclusion, surtout, vous êtes totalement trumpisé. Arnaud,
non, non, pas tout à fait. Le bilan de l'élection, mais ça fait du bien parfois. L'élection de Trump, est, le bilan est rassurant. Pas le sien, mais celui des États-Unis. 1. La justice a tenu en interdisant son décret anti-pays musulmans. 2. Trump a nommé à la Cour suprême un juge certes horriblement conservateur, mais indépendant. 3. Il s'est séparé de son conseiller à la sécurité intérieure, Michael Flynn, qui avait fricoté avec les Russes. 4. Il a le FBI et la CIA contre lui. Donc la perspective complotiste du deep state de l'État profond qui fomenterait un néo-macartisme me semble pour l'instant peu probable. Donc dans ce monde instable, le pire est certain, mais pas le pire du pire.
Merci Arnaud Le Parmentier. Et à tout à l'heure, vous restez au téléphone sonne qui sera consacré à 19h20 à cette nouvelle folle journée dans la vie politique française. Vous êtes déjà très nombreux au standard d'Inter. Je vous rappelle le numéro pour nous joindre et intervenir, 01 45 24 7000, franceinter.fr et Twitter avec le mot-clé Telson. Sébastien Paour dans quelques secondes.